Je voudrais lire avec vous ce matin un extrait de l'histoire d'Abraham. Abraham, père de la foi, pour les juifs et pour les chrétiens. Abraham, bénédiction pour tous les peuples. Abraham, qui dans les chapitres précédents, celui que je vais lire, a entendu la promesse de Dieu que son épouse, Sarah, bien âgée, aurait un enfant. Et Abraham qui attend la réalisation de cette promesse. Je lis une grosse partie ou l'intégralité du chapitre 20 de la Genèse. Abraham partit de là pour le Négev. Il s'installa entre Kadesh et Shur, puis il séjourna en immigré à Guérar. Abraham disait de Sarah, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit prendre Sarah. Alors Dieu vint à Abimélec dans un rêve, pendant la nuit, et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est mariée. Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Seigneur, vas-tu vraiment tuer un juste ? Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur ? Tandis qu'elle-même disait, c'est mon frère. » J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Dieu lui répondit dans le rêve, je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme. C'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous les gens de sa cour et leur raconta tout cela. Ils eurent très peur. Abimélec appela Abraham et lui dit, « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes inadmissibles. » Puis Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait certainement aucune crainte de Dieu en ce lieu et qu'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque les dieux m'ont fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, agis avec fidélité envers moi dans tous les lieux où nous irons. « Dis que je suis ton frère. » Abimélec prit du petit bétail et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, puis il les donna à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme. Abimélec dit, « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. » À Sarah, il dit, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, ainsi ton honneur sera sauf. » Abraham pria Dieu. Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et celles-ci purent avoir des enfants, car le Seigneur avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Jusqu'ici, la lecture. Et comme un bon évangélique, je prends des textes qui n'ont rien à voir avec le thème de la semaine de l'unité des chrétiens. Mais c'est pas par méchanceté, c'est juste comme ça. Je me disais qu'il n'y avait certainement aucune crainte de Dieu en ce lieu. C'est la parole qui retentit pour moi et que je choisis de retenir de ce récit. Et ce récit, j'imagine que même si on le connaît, si on arrive à l'entendre encore, on se rend compte qu'il est probablement déroutant, voire même effrayant à plusieurs titres. Mesdames, auriez-vous aimé vivre à cette époque ? Une époque où vous pouviez être ravie, arrachée à votre mari, mais sans être ravie d'une autre façon. Une époque où vous pouviez être rajoutée au harem d'un roi, et c'était juste normal. Mesdames, auriez-vous aimé être l'épouse d'Abraham, le père de la foi, quand même ? Un mari comme on n'en fait plus, pour qui vous devrez mentir, c'est mon frère, et qui vous laisse en prise à la convoitise sexuelle d'un autre. Alors évidemment, présenté comme ça, c'est pas tout à fait juste. Parce que bien sûr, si vous ne mentez pas, votre mari risque sa vie. Et donc en fait, vous avez le choix vraisemblablement entre petit a, être violé, ou bien petit b, être violé et veuve. Il n'y a pas de case pour l'abstention. Alors, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, bien sûr, ici, à Villefontaine, peut-être 3800 ans plus tard, on a du mal à se représenter ça. Même si dans certains pays, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une situation si improbable. On a parlé de guerre tout à l'heure. Difficile d'imaginer la vulnérabilité de ces nomades. Et pour ceux d'entre nous qui sont peut-être en situation pas tout à fait intégrée en France, j'entends de plusieurs d'entre eux combien ils se sentent vulnérables, combien ils ont peur de faire une bêtise ou quelque chose comme ça. Donc il y a une précarité, il y a une vulnérabilité qui joue là, alors que la vie n'est pas forcément menacée, en tout cas en France, pour autant que je puisse... qu'on puisse en juger. Là, c'est pire. C'est plus que ça. Donc, difficile d'imaginer cette vulnérabilité et les stratagèmes qu'il faut déployer, mettre en œuvre pour survivre, simplement survivre. Et si vous êtes familier du récit biblique, vous savez que ce n'est pas la première fois que le couple a recours à ce stratagème. Et on doit bien constater en lisant le texte que le risque, c'est pas de la science-fiction, le risque est bien réel. Abimélec prend bien, bel et bien, Sarah au départ. Et on peut sympathiser, je crois, avec l'affirmation d'Abraham. Je me disais qu'il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ce lieu. Et on peut être dérouté, du coup, par cette réalité du monde, de l'époque, devant ce que certains sont parfois réduits à faire pour survivre, devant ce que nous sommes parfois réduits à faire pour survivre. Et en revenant dans le récit, on peut être dérouté aussi, je crois, par la façon dont Dieu agit. Alors Dieu agit. Il intervient, dit le texte, à plusieurs reprises. D'abord, et on ne l'apprendra qu'à la fin, d'abord il rend les autres femmes stériles. Et les versets qui sont surlignés en jaune, versets 17 et 18, laissent entendre qu'on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ce qui veut dire qu'il a dû se passer un certain temps entre le moment où Sarah a été prise et le moment où on s'est dit « mais c'est pas, y a un truc bizarre là ». Ça, c'est la première chose. En tout cas, quand Dieu a dit qu'il avait... Bon, bref, les gens voyaient bien qu'il y avait un truc bizarre qui se passait. Donc Dieu est intervenu déjà en rendant les femmes stériles dès le départ. Et puis verset 6, tout ce temps-là, il a empêché Abimélec d'avoir des rapports sexuels avec Sarah. Et puis dernière chose, ou avant-dernière, enfin il s'adresse à Abimélec, il parle à Abimélec. Et même, j'ai envie de dire, il emploie les grands moyens. Pardon. Oui, du coup, j'ai peut-être raté quelque chose. Il emploie les grands moyens. Soit tu la renvoies, soit tu meurs. Choisis. Et là encore, il n'y a pas d'option 3, apparemment. Mais quand même, donc Dieu intervient, mais quand même, on pourrait dire que c'est quand même assez alambiqué, cette affaire. Et quelqu'un pourrait dire, mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi? Pourquoi, je vais le dire autrement, pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas l'enlèvement dès le départ? Au bout du compte, quoi. Et puis dans la même veine de la perplexité, donc on voit que Dieu parle directement à Abimélec, c'est normal. Mais ensuite, on se rend compte que Abimélec doit parler à Abraham, qui lui, pour qu'Abraham prie pour lui, pour qu'Abimélec soit délivré. Là encore, on se dit, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais devant ce fonctionnement de Dieu, cette façon dont la relation se fait entre Dieu et les personnages, j'ai envie de dire, mais que les spécialistes du discernement de la volonté de Dieu, que ceux qui savent tout expliquer s'avancent et qu'ils viennent rendre compte de ce qui se passe ici, qu'ils viennent nous expliquer un peu pourquoi ça se passe comme ça. Et puis le texte ne l'explique pas. Alors du coup, ça peut paraître un petit peu emberlificoté tout ça. Mais j'ai envie de dire simplement d'entendre que Dieu est déroutant et que ça peut faire peur. Je me disais qu'il n'y avait certainement aucune crainte de Dieu en ce lieu. Dans cette situation, dans ce monde qui sont déroutants, est-ce que le verdict d'Abraham est juste? Parce que ce qu'on constate en tout cas, ce sont les choses suivantes. Tout d'abord, le fait que Dieu prend la peine de s'adresser à Abimélec. Verset 3, verset 4. Et on peut se dire que si Abraham, lui, a jeté l'éponge à l'avance, s'il a tiré l'échelle à l'avance, dit de toute façon, là, il n'y a pas de crainte de Dieu dans ce lieu, eh bien Dieu, lui, non, il n'a pas jeté l'éponge à l'avance, il parle à Abimélec. Et ce n'est pas anodin, ça, parce qu'en fait, on mesure qu'Abraham est qualifié de prophète de Dieu, au verset 7. C'est-à-dire de porte-parole de Dieu. Donc on s'attendrait à ce que ce soit Abraham qui porte la parole à Abimélec. Que les communications entre Dieu et Abimélec passent par Abraham. Or, ce n'est pas ce qui se passe ici. Et on peut se demander, Dieu court-circuite le prophète. Deuxième remarque, il y a ensuite ces paroles qu'Abimélec adresse à Dieu. Vas-tu vraiment tuer un juste? J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Me voilà inculpé de quelque chose dont je n'avais pas conscience. Et qui plus est, Dieu est d'accord avec ça. Verset 6, je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Autre élément, il y a aussi les questions d'Abimélec à Abraham. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi ai-je péché contre toi? Et on se rend compte qu'Abimélec reprend à deux reprises ce mot de péché au verset 9, un mot que Dieu avait employé au verset 6. Et Abimélec est prêt à dire que prendre la femme de quelqu'un d'autre, c'est de l'ordre du péché. Et toi, Abraham, cela dit, tu as commis envers moi des actes inadmissibles. Donc pour ce païen, tout ça fait entendre que pour ce païen, il y a des choses qui ne se font pas. Et c'est au nom du bien et du mal qu'il revient vers Abraham. Et peut-être ce n'est pas anodin si le récit rapporte deux séries de paroles qui sont adressées à Abraham. Les propos et les questions du verset 9, qui sont surlignés en jaune. Et puis, une deuxième série, Puis il demanda, alors c'est pas comme ça dans la traduction là, mais c'est comme ça dans une autre traduction. Puis il demanda, et j'attire votre attention sur le silence qu'il y a entre ce qui est surligné en jaune et ce qui est surligné en orange. Il pose des questions à Abraham, silence, et il revient et il pose une question. À nouveau, il insiste. Comme s'il n'y avait rien qu'Abraham puisse dire. Comme quand on se fait coincer par ses parents, avec la main dans la boîte de bonbons, ou par le surveillant pendant l'examen, à regarder discrètement son téléphone portable. On a juste oublié, mais on savait bien, mais on regarde le téléphone portable pour compléter la copie. Ou bien le pied à fond sur l'accélérateur dans la zone limitée à 30 km/h. Et puis il y a quelqu'un avec un képi qui nous fait un petit signe. Abraham ne répondra au verset 10 que quand Abimélec insiste. Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Pourquoi? Et peut-être Abraham est penaud, parce que pas de bol, il n'y a pas de trou pour se cacher. Et que là, on observe très bien ce qui se passe pour nous, en tout cas, quand nous sommes pris sur le fait et qu'on se sent obligé, tenu de s'expliquer, de convaincre l'autre, et parfois de convaincre l'autre et se convaincre soi-même. Oui, c'est pas tout à fait un mensonge. C'est bien ma sœur quand même. Oui, monsieur l'agent, je sais bien que c'est une zone limitée à 30 et que je roule à 80. Mais j'ai peur d'avoir laissé le gaz allumé à la maison. Je me disais qu'il n'y avait certainement aucune crainte de Dieu en ce lieu. Alors, il y a deux possibilités au moins de lire le texte, de l'entendre. Peut-être qu'en effet, Élimélec n'a aucune crainte de Dieu. Et peut-être que c'est parce que Dieu lui met comme en quelque sorte le couteau sous la gorge qu'il parle ainsi. Peut-être qu'Élimélec est terrifié par un Dieu qu'il ne connaît absolument pas, et qui, si je puis dire, débarque au milieu de sa chambre, au milieu de la nuit, au milieu de son sommeil. Imaginez votre surprise si ça vous arrive, peut-être c'est arrivé à certains d'entre nous, mais pas dans le rêve. Un Dieu qui lui dit, tu la laisses dégager, ou bien c'est toi qui dégages. Peut-être que Dieu lui concède une certaine sincérité, même si peut-être aussi, Abimélec n'aurait peut-être pas hésité à prendre une femme mariée, même s'il savait que c'était une femme mariée. Et peut-être qu'il fait aussi au moins un peu semblant de s'indigner pour mettre Abraham quand même mal à l'aise. Peut-être. Ça, c'est la première lecture. Mais peut-être aussi qu'on peut voir là une mise en question des préjugés d'Abraham, et en l'occurrence des préjugés religieux d'Abraham. Et si je fais un grand saut à aujourd'hui, si j'actualise de manière un petit peu rapide, peut-être que ça peut interroger aussi nos préjugés et nos préjugés religieux à nous, hors de notre Église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit évangélique, ou tous les hic que vous voudrez. Hors de notre Église, pas de salut, ou plutôt, pour être plus proche du texte, pas de crainte de Dieu, ou plutôt, peut-être encore, pas d'éthique, et que des méchants. Et Dieu ne parle pas à ces gens-là. Et s'ils disent entendre Dieu, ces gens-là, eh bien, ils se trompent. Et ils nous trompent. Mais nous y voyons clair. Eux, ils n'agissent pas avec bonne conscience. Ils ne sont pas chrétiens, comme nous. Nous avons la vérité 100% cachère, et les autres. Moi, je crains Dieu. Moi, j'ai le cœur pur, j'ai le cœur intègre. Et quand on est dans cette posture-là, c'est dramatique, c'est tragique. Parce que tout ce que l'autre pourra dire et faire pourra être retenu contre lui. Qu'il fasse ou qu'il dise quelque chose de juste. Et je dirais, oui, mais en fait, il a fait ça juste pour être bien vu. pour mériter. Ou bien peut-être parce qu'il était obligé. Style, peut-être qu'Abimélec n'a en effet aucune crainte de Dieu, mais comme il a le couteau sous la gorge, eh bien... Et ça pourrait aller parfois jusqu'à se dire à de telles personnes, je n'ai pas forcément à rendre de compte. Je ne leur dois pas la vérité à ces gens-là. Alors peut-être que Dieu interroge Abraham, comme il interrogerait tous les croyants qui, regardant les autres, disent ou se disent, mais il n'y a rien de bon à attendre d'eux. C'est des sales types, cette sale bonne femme. Je sais, pour être plus sobre quand même, je sais qu'ils ne craignent pas Dieu. Et on pourrait pousser le bouchon, alors là, je m'éloigne davantage du texte. Mais peut-être que ça interroge toutes les fois où nous prétendons savoir qui est l'autre, ce qui l'anime, comme si nous étions dans sa pensée, dans son esprit. Et si l'autre démentait, même de bonne foi, nous savons qu'il ment. Si je ramasse de manière un peu brûlée des coffrages, mais peut-être sommes-nous interrogés sur ce qu'on appellerait de manière anachronique une tentation sectaire qui ne se voit pas comme telle et qui dramatiquement empêche de reconnaître les cœurs intègres en dehors de notre propre périmètre et qui limite l'action de Dieu à notre propre périmètre, à nos propres codes. Et je pense à ce que dira un peu plus loin un autre patriarche, Jacob. Certainement, Dieu était dans ce lieu, et je ne le savais pas. Ce que ce texte atteste, en tout cas, avec quelques autres textes, c'est, je le signale, je m'y attarde, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas parfois en lisant le récit de l'Ancien Testament. Donc il y a ce texte-là et d'autres textes d'Ancien Testament, qui sont parfois discrets, c'est que si Dieu a choisi Abraham, il ne limite pas pourtant son action au peuple juif, au moins dans cette situation précise. Il peut lui arriver de parler directement à des personnes à qui on n'aurait pas donné le bon Dieu sans confession ou sans confessionnal. Des personnes qui étaient extérieures à la foi juive, eh bien, peuvent être en contact avec Dieu. Ce texte atteste que Dieu pourrait être un petit peu connu, au moins par quelques-uns, en dehors d'Israël. Et évidemment, comme le récit, le projecteur biblique est braqué sur l'histoire juive, et il va pas. Voilà, l'Ancien Testament en parle peu, mais il y a plusieurs indices comme ça. Alors certes, je rajoute qu'il serait difficile et que ce ne serait pas très prudent sans doute d'en tirer des déductions par rapport à si ces personnes sont sauvées ou non, enfin les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Mais en tout cas, on ne peut pas décréter qu'il n'y a aucune trace de l'action de Dieu et de la crainte de Dieu en dehors de la ligne de l'Alliance. Et peut-être pour nous, j'ai envie de dire qu'il y a là peut-être un motif à retenir, à entendre, un motif de craindre, nous, Dieu, en mesurant cela. Ce Dieu qui, par cela, peut nous faire sentir qu'il nous dépasse, et qu'il dépasse peut-être le schéma qui est dans nos têtes. Dernière chose, s'illustre ici le fait que Dieu, malgré des cheminements un peu déroutants, inattendus, eh bien en même temps conduit bel et bien son projet, qu'il tient bien sa promesse. Abraham et Sarah auront bien la descendance que Dieu avait promise. Et que c'est bien par cet homme qu'il a choisi, Abraham, que toutes les nations, que tous les peuples seront bénis. Et c'est peut-être ça qui explique qu'il faut que ce soit Abraham qu'il faut qu'Abimélec demande à Abraham de prier pour qu'Abimélec puisse être préservé. Et c'est là aussi déroutant. Parce que ce fait que Dieu choisisse d'attacher son histoire à Abraham et de faire passer la bénédiction par Abraham, si je puis dire, cela vaut quand même, quand c'est à Abraham lui-même, par une demi-vérité, qui a mis ce peuple en danger. Et que le peuple en question ne paraît pas si coupable que ça. Alors maintenant, on n'a pas le dossier à charge complet. Donc, mais nous savons, et nous savons en regardant la croix de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la postérité d'Abraham, nous savons que ça va encore plus loin, que la bénédiction que Dieu offre aux nations vaut même quand la culpabilité est tout entière du côté des nations, quand elles n'ont aucune excuse. Et je vais le dire plus crûment, la promesse, l'offre de la bénédiction par Dieu est donnée quand la culpabilité entière est de notre côté. Car c'est bien ce que nous dit le Nouveau Testament. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Promesse à quiconque place sa confiance en lui, et aux juifs, et aux non-juifs. Promesse de vie éternelle. Et je dirais en tout cas pour moi que oui, ce portrait de Dieu, moi, il me dépasse. Cette action de Dieu ne rentre pas bien dans mes cases. Ma prière, c'est qu'en prendre conscience contribue à alimenter pour chacun d'entre nous la présence en nous de cette crainte, de ce respect profond de Dieu. Et pour le coup qu'il y ait en nous, dans nos êtres, dans nos foyers, dans nos églises, de la crainte de Dieu en ces lieux-là.
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.